Déjà abandonné les lieux. Sur scène, on vient discussion sur la nuit. Derrière le bar, le patron permet de nettoyage des verres. Aucun des deux n'est surpris de voir des bouteilles douces. Les plantes prises s'interpellent, des bouteilles qui apparaissent comme par magie sur le comptoir. Dans la salle, les lumières se rallument. Soudain, j'ai envie de faire la fête. Je ne veux plus penser à l'inconnu du bar, plus penser à la caisse, plus penser à la musique. Les doigts de mon pianiste se rallument d'un coup. Il s'appelle. Plantes approuvent, Personnage de Westelfaille, personnage original, attachant, bousculant. C'est un personnage, vous voyez, il est dans ce futur, il chante, c'est un passionné du jazz du XXe siècle, entre autres, il chante de ce jazz. Et donc, il se travaille avec sa femme pour chanter dans les bars. Et par ailleurs, on le verra plus tard, c'est aussi un garçon, et un garçon qui fait le coup de poing. Le corps n'est pas très fluctuant chez lui, c'est plutôt le genre qui est fluctuant chez lui. Alors, pourquoi vous avez choisi ce personnage? Androgyne parfois, qui se travestit enfin pour chanter le jazz, et qui pourtant est un héros parfois masculin qui n'hésite pas à en découdre quand c'est nécessaire pour faire avancer ses enquêtes, un détective privé d'occasion, et puis aussi pour tout simplement se défendre face aux dangers qui peuvent menacer dans la ville. Estelle.
Ouais, c'est mieux. En fait, c'est un personnage qui remonte à. Qui me suit depuis très très longtemps. Et quelque part, la première question que je poserai surtout, c'est pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche qu'après tout, cet amateur de chanteuse de jazz, la nuit il soit ses chanteuses de jazz, le jour il ait une petite frappe qui fait le coup de poing? C'était vraiment ce qui m'intéressait de montrer qu'après tout, ben, voilà, pour lui c'est naturel dans sa vie, dans la manière dont il mène sa barque, finalement, c'est naturel pour lui. Et donc, comment le montrer ainsi, de montrer que ce n'est pas l'enjeu de sa vie, ce n'est pas ce qui lui pose problème, ce n'est pas ce qu'il va faire qui va plonger dans des ennuis divers et variés, parce que sinon c'est pas drôle. C'était la première chose qui m'intéressait pour les retours de lecteurs, justement. Ce qui me fait très plaisir, c'est quand finalement les lecteurs sont venus et me disent, une fois sorti du livre, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'était pas commun là-dessus, mais quand j'étais dans le livre, finalement, c'était normal pour moi. Et par ailleurs, c'est venu aussi du fait que, du coup, quand j'étais petite et puis à fortiori ado, enfin, j'ai eu des grosses périodes de garçon manqué, où j'étais vraiment habillée en garçon en chaussures super court, on prenait pour le fils de mon père. D'autres où j'étais très jeune première en théâtre, donc les cheveux très longs, les talons hauts, les cheveux très fluides. Finalement, j'étais quand même toujours la même personne sous toutes ces apparences-là, et en même temps, quelque part, les gens n'agissaient pas forcément pareil. Alors que, voilà, j'étais toujours une grosse fan de littérature de l'imaginaire, j'étais toujours en train d'avaler des tonnes de fantaisie, de science-fiction et de polar aussi. Et pourquoi le fait qu'à un moment, donc, je sois cheveux courts dans ma vie, et l'autre sur scène en grand drop, ça me montre quelqu'un de différent. C'est toutes ces questions aussi que j'ai mis dans le chat. Voilà. Et dans ce monde-là.
On va partir avec une autre mission, avec Samantha Bailly, Métamorphose. Chez Marjolaine, c'est tout simplement un roman indépendant de même univers que Horizon, ce roman qui avait donc gagné le prix Imaginaire du lycéen. Et là, on voit que c'est plutôt le corps qui bouge, la personnalité réelle du héros. À partir de ce moment-là, il perd toute notion du temps. Pour monter dans le corps ardent, il reste habité, tout temps comme il le pouvait pour chasser les fourmillements qui venaient par vagues dans ses membres. Parfois, il parvenait à rester immobile, s'endormir quelques instants avant d'être réveillé. Lancement. Ensuite, pendant très longtemps, tout son corps se assez précis. Ça va choisir l'archi, les sourcils, blanchir, les crampes. Il prenait l'apparence de mes crampes. La stupeur se referma sur lui comme une main glacée. Il se sentit soudain basculer en arrière, le coup de nez en la main. Là, personnage vient d'avoir vraiment un état de choc, littéralement. Il vient d'éprouver quelque chose d'incroyable, d'hallucinant, laquelle il n'était pas préparé. Il n'était pas le volontaire pour ça. Il ne s'agit pas. Il s'agit d'une métamorphose physique. Est-ce qu'elle est réellement physique? Est-ce que c'est simplement lui qui la voit? Est-ce que les autres la voient? En gros, qu'est-ce que c'est? Ça m'a pas dit cette métamorphose. Et pourquoi vous avez eu cette idée? L'idée des métamorphes dans votre monde.
C'est un peu un problème de comment justement avec Pixel sur la question des apparences, en fait. Puisque sur la vidéo, c'est une question de polymorphie. Et en effet, c'est une illusion qui le contrôle auprès des autres, il peut changer d'apparence à volonté. Les employés par les éducateurs au centre, jusqu'à leur majorité,
J'aurais évidemment pu le trouver avant, simplement il n'y avait pas de roman suffisamment
chercher un angle, chercher comment cet homme le traiter de la manière la plus sincère possible. Ce qu'on disait par rapport au personnage, enfin, aux autres personnes, je pense à un exemple assez marquant dont je vous ai parlé justement, qui est un auteur qui s'appelle Francis Berthelot, qui est ici présent, qui est un écrivain absolument magnifique, puisque vous ne connaissez pas, et qui a, on parlait de l'homosexualité quand Karine a donné tout à l'heure, et Francis a fait quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, fait la question dans Rivage des Intouchables, un de ses romans, c'est qu'il décrit une société où il y a une histoire d'amour entre deux personnages. Il y a un interdit très fort entre deux races qui habitent sur une planète. Ces deux races ne doivent pas avoir de contact physique. Deux personnes, chacune de ces races, sont amoureuses. Et c'est seulement plus loin dans le roman qu'on se rend compte que ce sont deux garçons. Puisque l'interdit a été dépassé sur autre chose. Et finalement, il parle d'une histoire d'amour homosexuel, mais le thème de l'interdit qui est traité est ailleurs. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et puis, cette réflexion m'a amené à traiter de thèmes assez semblables. En réfléchissant à cet angle, j'ai abordé tout un peu différent un texte sur lequel je pensais, je ne sais pas si c'est celui-ci, dont on parlait, qui s'appelle l'histoire de la Tarasque, où il est question, voilà, qui parle justement de. Alors, tout ça entre deux thèmes de l'homosexualité. Donc, pour vous résumer ce texte, il est question de jeunes filles qui sont. Sept jeunes filles, de l'époque contemporaine, sont dans un pensionnat pour jeunes filles, où elles sont élevées par une sorte de culte autour d'un dragon, ce qu'on appelle quasiment une divinité. Ces sept jeunes filles ont été élevées dans l'idée qu'être choisie pour être l'épouse de ce dragon, c'est la chose la plus merveilleuse, la plus incroyable qui puisse arriver. C'est le plus grand honneur qui puisse arriver à une jeune fille sur cette île. Et toutes les sept, elles ont été sélectionnées. Une des sept va devenir l'épouse du dragon. Et six d'entre elles sont sur une scène où elles sont en train, comme des jeunes filles en train d'être mises sur des photos d'un acteur de cinéma, elles sont en train de dire ah, il est trop beau, mais regardez, c'est trop. Elles ont croyé qu'il est aussi beau, en vrai, il a des yeux magnifiques, etc. La septième, qui est la narratrice, reste dans son coin. Elle essaie de sourire et de rire en même temps que les autres, mais il y a un gros malaise, elle n'y arrive pas. Et dans cette scène, on comprend qu'il craint qu'elle est perturbée, elle est troublée par la présence d'une de ses amies. Et qu'en réalité, elle ne le sait peut-être pas elle-même, elle n'a peut-être pas mis des mots dessus, mais en réalité, elle est amoureuse de cette amie. Et on comprend qu'il craint dans le texte que la raison pour laquelle elle n'a pas cette réaction par rapport à ce dragon, que toutes les religieuses du culte veulent leur faire adorer, c'est qu'en réalité, il symbolise plus ou moins il dégage quelque chose d'extrêmement masculin. Et elle est terrorisée par ce dragon, elle ne comprend pas pourquoi elle est différente. Et à aucun moment dans le texte, je ne parle de l'effet de j'ai jamais mis le mot homosexualité, je n'ai jamais développé le thème de manière, j'ai envie de dire, pas de manière militante ou quoi que ce soit. Simplement, je vais l'interroger sur ce trouble, qu'est-ce que c'est d'être dans une société où il y a une norme, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'on peut placer beaucoup de thèmes sur ça. Là, en l'occurrence, c'est ça dans ce texte. Est-ce que c'est d'être dans une société où il y a une norme imposée, en fait, une norme dominante? Comment on ressent le fait de ne pas être dans cette norme et d'être trouvé à celui d'être perçu toujours? Parce que là, il y a un danger réel qui menace et les gens ne peuvent pas s'apercevoir qu'elles n'aiment pas le dragon. C'est vraiment c'est une terreur absolue chez elles. Elles n'aiment même pas un mot sur le fait que sa différence à elle soit qu'elle aime son ami. Et je trouvais très intéressant d'essayer de traiter ce thème sur cet point de vue de l'intérieur, parce que c'est de ne pas appartenir à cette norme. On peut placer beaucoup de choses sur ça. Il se trouve que j'écris sur le sujet dans un autre texte beaucoup plus récent, qui s'appelle La clé de Mandelay, qui est paru dans la revue Bifrost tout récemment. Et là, il me faisait la réflexion qu'en ce moment, tous les personnages sont des femmes. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, c'est comme ça. Et d'un seul coup, en fait, c'est mis, tous les personnages sont des hommes. Ça n'a pas été réfléchi. Et sans que ce soit réfléchi non plus, j'ai trouvé qu'un des personnages qui est mort depuis l'inventeur est en couple avec un autre homme. Je n'ai pas du tout réfléchi à ce texte, parce que c'est lui comme ça que je voyais simplement. Alors là, on était dans l'après-débat sur le mariage, avec tout ce que ça a soulevé comme débat, tout ce que ça fait ressortir un peu nos cerveaux dans la société. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire un petit peu ce que Francis Berthelot avait fait. Si à aucun moment je n'insiste sur le fait que ces deux personnages sont des hommes, à part pour mentionner un incident qui a eu lieu un jour, un incident de rejet, je vais simplement mettre en couple, un couple. À aucun moment je ne vais insister sur le fait que ce sont des hommes. Que le narrateur était petit garçon quand il l'a rencontré. Pour lui, c'était, ben voilà, on lui dit son nom de vie avec un ami, on ne l'a pas précisé. c'est pas ces petits gestes-là qui, petit à petit, vont construire, vont faire que la mentalité va évoluer, petit à petit. Et ça, ça s'est fait, c'est, ça fait une grosse réflexion, ça s'est fait tout seul, simplement.
C'est la personne qui s'est dit, François, c'est pas tout le monde, évidemment. C'est l'amour. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a là. Donc, c'est pour ça qu'il fallait peut-être que j'ai plutôt la maturité de trouver.
C'est pas quelque chose dont j'avais peur parce que si on était venu m'écrire les mains sur le pied en disant c'est dégueulasse que t'écris, etc., je fais. Mais j'en avais pas peur, mais j'attendais que ça arrive. Je me disais à un moment, on va me tomber dessus, on va me dire, mais comment si tu mets des histoires pareilles dans les mains de jeunes, tu vas me troubler, tu vas peut-être me donner des idées. Et en fait, j'ai eu que des retours super positifs, de témoignages de gens qui m'ont dit qu'ils se reconnaissaient dans cette histoire, qu'ils avaient besoin de ce message de tolérance, qu'ils se reconnaissaient là-dedans parce que le monde autour d'eux avec les infos et tout, ça les désespérait et qu'ils avaient l'impression de trouver enfin un peu positif et des choses que même pensaient qui étaient enfin traduites sur le papier. Donc je me suis dit, ça va, finalement, il y a aussi des gens qui pensent comme moi, c'est pas ceux qu'on montre à la télé. On aime bien montrer ceux qui sont. voilà. Mais ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien et ça m'a rassuré aussi. Moi, j'ai peut-être rassuré des lecteurs, mais ça m'a rassuré d'avoir ces retours et de me dire, on est peut-être pas si mal que ça finalement.
Oui, c'est vrai que, y compris dans les établissements, on n'aura peut-être pas fait aborder par des collégiens qui sont un peu jeunes parfois et encore, je pense que votre roman ne pose pas de problème. C'est plutôt la brutalité des rapports humains qui parfois peut nous faire hésiter à proposer un roman dans la sélection du prix imaginaire des collégiens ou des lycéens. Et on se rend compte que on a quasi. Parfois, ça bouscule, mais en général, et c'est aussi l'intérêt d'être avec des professeurs en général, c'est plutôt justement sur. Acceptation des différences et on est d'autant moins angoissé parce qu'on est soi-même que les autres finalement nous acceptent. Et c'est peut-être aussi ce qu'on peut trouver dans la littérature, parfois, non pas des bons sentiments, c'est pas du tout le sujet, mais simplement rencontrer la diversité dans les romans, c'est peut-être une façon d'accepter dans la vie aussi. Et que finalement, peut-être que les lecteurs sont quand même, à force de voir plein de personnages, plein de lieux, plein de rencontres, plein de façons de vivre différentes, sortent les uns et les autres, nous tous, petite habitude de nous rencontrer, limitée, bien sûr.
Je voulais ajouter quelque chose là-dessus, parce qu'il y a une étude passionnante qui est sortie dans le magazine Science en octobre 2013, justement, sur le rapport entre la fiction et le développement de l'empathie. Dans le fait qu'en fait, il y a une expérience qui a été faite où ils ont fait lire de la fiction à un échantillon de personnes, et ils se sont rendu compte qu'au bout d'un mois, toutes les zones à l'empathie et à la capacité de se mettre à la place de l'autre augmentaient de façon très significative. Et de toute façon, je trouve que le roman, la littérature, à la différence de, par exemple, du cinéma ou de tout autre support visuel, c'est une exploration de l'intériorité. C'est les sentiments, c'est les pensées, c'est la voix intérieure en fait, des individus. Donc quand on se met à la place d'eux, on a forcément une brèche en nous qui s'ouvre quelque part vers l'autre. Et c'est, je trouve, ce qu'il y a d'absolument passionnant au niveau de la littérature par rapport à ces sujets-là. Comme dit Carina, on fait l'effort d'essayer de se mettre à la place d'eux. Et le lecteur lui-même, quand il entre dans cette aventure, du coup, il y a cette démarche quelque part. D'accepter d'être l'autre, d'être dans la peau de l'autre.
Ce qui m'a paru aussi intéressant dans le roman, mais ça renvoie, quand tout le monde connaît, quand on est un peu lecteur, ça n'a rien à voir avec l'imaginaire, mais la célèbre phrase de Flaubert, un homme, un vrai, vraiment les femmes, et Flaubert déclare, moi qui suis gêné, évidemment, ça a un sens autre que celui de notre débat, Madame Bovary, c'est moi. C'est-à-dire que l'écrivain peut évidemment se mettre dans tous les personnages, il peut faire parler à partir du moment où la voix est juste. Et de la même façon que sur la modification corporelle ou que sur des sexualités non majoritaires, voilà, en tant que terme neutre, ou des amours de couple de même sexe, eh bien, finalement, le roman, entre autres, le roman d'imaginaire, qui a peut-être encore une plus grande liberté en étant moins démonstratif. Parce que justement, ce que vous venez d'expliquer, il y a un écart par rapport au réel. C'est ça qui nous permet peut-être de ne pas être dans le démonstratif, que serait parfois un roman réaliste, qui se laisserait moins de liberté, et qui du coup peut-être nous interrogerait moins, nous bousculerait moins, et nous amènerait moins à réfléchir, même si encore une fois, le but d'un roman, c'est aussi de faire passer un excellent moment. Et c'est ce que j'ai trouvé, et ça m'a frappé aussi que toute une série d'écrivains, et surtout d'auteurs femmes, en grande, très grande majorité hétérosexuelles, abordent ces questions-là avec la même légitimité, parce qu'un écrivain peut parler de tout. Et se mettre à la place, pas dans le réel, mais au moins en fiction, de tous les personnages. Estelle, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
En fait, la question de la légitimité de présenter Chet, en plus, c'est mon premier roman à la première personne. Vraiment, je me suis mis dans la peau du personnage. Je ne me la suis pas posée comme ça. Déjà, je viens du théâtre, je suis toujours une grande fan de Racine, et en fait, Racine, c'est un auteur homme qui a fait les plus beaux personnages féminins. Donc, rien que ça déculpabilise, quoi, parce qu'on se dit que de toute manière, si Racine, il a fait des femmes extraordinaires, bon, bah, en tant que fille, après tout, je élevé dans des valeurs très garçonnières, justement, pour être. On pleure pas, on passe ses émotions. Justement, comme tu dois être une fille, tu ne dois pas, entre guillemets, être un cliché de fille, donc tu dois vraiment être un peu dure, un peu courageuse. Moi, voilà, ce qui m'a posé problème, c'était d'écrire, en fait, d'aller vraiment dans le côté romance, d'écrire des sentiments. D'écrire une histoire d'amour où on parle vraiment d'amour et où on ne parle pas que de cul, en fait. Et ça, c'était. Ouais, mais là, tout à coup, en plus, en mettant les choses. Voilà, en allant creuser dans des trucs assez personnels, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je ne veux pas être super carolique en parlant de romance, en parlant de sentiments, quel que soit le personnage qu'il porte? Et est-ce que tout à coup, je ne vais pas être envoyé un statut, mais de toute manière, ce que tu fais, c'est rose, c'est mieux. Et c'est ça qui me fait. Ouais, non, mais c'est vraiment ça qui, en fait, quel que soit le personnage, c'est tout à coup dire, il y a trois morceaux de romance là-dedans, il faut assumer ça. Voilà, ça m'a un petit peu, au début, un petit peu. Voilà, c'était ça. Et peut-être aussi, enfin, disons quelque chose. Alors, déjà, lisez Francis Berthelot, c'est super beau. Je rejoins là-dessus. Et aussi, peut-être que il y a justement des auteurs femmes qui vont là-dedans. Enfin, parce qu'on est quand même en France, et dans l'imaginaire, pourquoi écrire avec ce qu'on vit, avec ce qu'on traverse? Et j'ai l'impression. En tant que femme, on est aussi beaucoup plus renvoyé justement à notre identité de femme, en fait. C'est-à-dire, même, je vois dans mon parcours, par exemple, dans mon école de scénario, la question qui revenait toujours, c'est « Oui, mais en tant que femme, pourquoi tu prends tel sujet ?» Ou, par exemple, tu écris des trucs qui sont tel et tel, et à cette époque, j'étais encore dans mon apparence jeune première, donc t'as enrobé tout ça, et il y a carrément une des autres, une autre scénariste, qui m'a reproché, qui m'a dit mais ton apparence, ça correspond absolument pas à ce que tu écris, tu desserres la cause de tes propres scénarios en te présentant aussi féminine, en te présentant donc dans un cliché machiste, enfin, et je veux dire, ce que j'écrivais, ça n'avait rien à voir avec est-ce que je me mets du mascara le matin, quoi. Et c'est vrai que c'était j'ai l'impression que ce côté c'est oui, mais tu es une fille qui écrit, au lieu d'être tu écris et tu es une fille. C'est quelque chose quand même que les gens que j'ai croisés, les hommes ont moins vécu. Donc ils sont moins renvoyés à ça, donc peut-être aussi ça occupe une place moins centrale dans les œuvres masculines. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que quand même de plus en plus, les auteurs hommes mettent moins dans leur galaxie de personnages, aussi des personnages qui sortent un peu justement des cadres des personnages masculins classiques. Et ça, c'est cool.
Moi, c'était pour revenir un petit peu en arrière, c'est tout en étant d'accord avec tout ce qui a été dit. Je m'aperçois que moi, je suis un petit peu gênée à chaque fois qu'on pose la question en termes d'hommes-femmes, etc., et la question des sensibilités masculines-féminines. Parce que je pense, alors, tout en disant qu'effectivement, on n'a pas été élevés de la même manière dans la société, on porte un vécu différent parce qu'on a une identité homme-femme, etc., qu'il y a quand même essentiellement des individus, des histoires différentes. J'étais en train de me poser la question tout à l'heure, est-ce que des auteurs hommes ont écrit sur l'homosexualité? Je trouvais quelques exemples. Un des premiers qui me venait en restant dans le fantastique, c'est Michel Paget qui a écrit sur, notamment dans Nuées Ardentes, dans le personnage qui met en scène un couple de femmes notamment. J'ai pas mal d'autres exemples comme ça. Et sur la vulnérabilité, je m'aperçois que beaucoup d'auteurs, moi, que j'admire, sont des gens qui ont cette vulnérabilité, beaucoup d'auteurs hommes. Des auteurs comme Stephen King, Graham Joyce ont créé des personnages féminins absolument magnifiques et n'ont absolument pas peur justement de mettre en avant cette vulnérabilité. Et je pense qu'on aura fait, alors, tout en sachant qu'il faut encore qu'on se bagarre parce qu'il y a énormément de choses, la parité, l'égalité, etc., on n'y est pas, ça c'est clair. Je pense qu'on aura fait un pas en avant le jour où on ne se posera pas cette question du tout et que peut-être il faudra aussi que nous on arrête d'avoir cette posture de se défendre en disant. Est-ce que les femmes font pas ceci plus que les hommes, etc. Et que finalement, c'est pas tout à fait juste par rapport aux auteurs hommes, je pense. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et moi, j'essaie de ne pas me poser cette question-là du tout. Tout en sachant qu'il y a des choses qu'on vit différemment en tant qu'homme et en tant que femme. J'aime pas trop l'idée qu'on mette en avant certaines qualités chez les auteurs femmes en disant on a peut-être ça plus que chez les hommes parce que c'est pas tout à fait juste non plus pour les auteurs hommes. Tout en sachant qu'évidemment, ces problématiques-là se posent.
Je n'ai pas eu d'auteur qui nous présentait un personnage transgenre en tant que tel, mais tout simplement parce que je n'en ai pas trouvé encore, mais je pense que ça va venir. Il y, jamais prêcher Préchard, sans jamais nous ennuyer, sans jamais le faire d'un point de vue, je dirais, sectaire. Vous l'avez fait justement avec une véritable ouverture, avec naturel, simplicité et talent. Et c'est pour ça que je voulais vous inviter sur ce café littéraire. Donc, Estelle Fay, ce très beau personnage de Chet, qui a un livre tout à fait magnifique, un éclat de givre au mouton électrique, il en reste encore quelques-uns, que vous trouverez après sous la bulle du livre. Vous pourrez aussi vous procurer le diptyque La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, entre autres. Cette question est abordée de plus d'ailleurs dans le livre 1, mais bon, si ça, c'est l'ensemble du bouquin. Là aussi, une très belle histoire avec un mystère qu'on ne dévoilera pas. Vous pouvez aussi retrouver Métamorphose, le pas dernier, mais un des récents, un des romans les plus récents de Samantha Bailly, L'univers pour ceux qui connaissent d'Horizon. Et puis là aussi, le thème du métamorphe, qui est un thème de longue date en science-fiction et en fantasy. Et puis les nouvelles romans de Mélanie Fassi, où ces mondes fantastiques abordent aussi d'une façon ou d'une autre ces thèmes, et en tout cas avec beaucoup de talent. Toutes les quatre, merci à vous.